Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Vous connaissez le principe, vous nous appelez et vous lancez le débat évidemment en direct sur notre antenne. Ce matin, nous allons consacrer notre débat du jour à la nomination du lieutenant-colonel Zida à la primature du Burkina Faso. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent vu le nombre de réactions que nous recevons sur la page Facebook de l'émission et au standard. C'est donc un militaire qui se retrouve à la tête de l'exécutif et qui aura la lourde tâche de diriger le gouvernement de transition. Reste à savoir, et c'est toute la question du débat d'aujourd'hui, comment la communauté internationale va-t-elle réagir à cette nomination, d'autant que l'Union européenne, la France et les États-Unis souhaitaient une transition strictement civile. D'ailleurs, faut-il s'attendre à la nomination d'autres militaires dans le futur gouvernement? 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. La question pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons chaque matin et tout au long de la journée sur notre antenne. La rédaction, vous le savez, s'efforce d'y répondre tous les jours au plus grand nombre. Et vous êtes nombreux et on vous remercie évidemment à chaque fois pour votre fidélité. Première question, c'est Lamine qui la pose. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes en Gambie et vous avez plusieurs questions sur la Colombie et le processus de paix avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie.
Effectivement, j'ai appris sur RFI qu'un général de l'armée régulière colombienne a été enlevé avec deux de ses gardes-corps par des inconnus que le gouvernement a assimilés aux FARC. Suite à cet enlèvement, l'État colombien a suspendu provisoirement la négociation de paix avec les FARC qui était prévue à La Havane. À cet égard, je voulais savoir pourquoi les FARC ont-elles enlevé le général maintenant, alors que les négociations étaient en cours.
Ouais, effectivement, c'est une bonne question. On peut s'interroger, alors que les négociations ont démarré il y a quand même maintenant 2 ans, et bien tout d'un coup, la guérilla, les FARC décident d'arrêter un général et un autre militaire d'ailleurs. Parmi les 3 personnes kidnappées dimanche, il y avait 2 militaires et 1 civil. Bonjour Asbel Lopez.
Bonjour Juan, bonjour Lamine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction Amérique latine d'RFI. Le président Santos a interrompu, suspendu les négociations depuis dimanche. C'est évidemment un coup dur pour le processus de paix. Comment expliquer l'attitude de la guérilla?
En fait, personne ne sait pourquoi la guérilla des FARC a fait ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire en 50 ans de lutte armée, à savoir séquestrer un général. Il est à peu près établi comment les FARC ont obtenu ce trophée de guerre. Le général Rubén Alzate et 2 accompagnateurs, un caporal et 1 avocate, conseillère de l'armée, étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient en civil et sans escorte. Ils faisaient l'inspection d'un programme énergétique dans une zone d'influence de la guérilla dans le département du Chocó.
Ouais, mais pourquoi étaient-ils là?
C'est la grand mystère, Juan. Dans sa toute première déclaration, le président Santos s'est posé la même question, car il s'agit d'un haut gradé très expérimenté dans la lutte contre la guérilla. Santos a utilisé bien sûr des termes policés pour évoquer cette immense imprudence. En langage de tous les jours, nous pourrions dire « mais que foutait ce général en zone rouge, en zona roja ?» Apparemment, les FARC ont profité d'une opportunité au nord. Et un général, bien évidemment, est une très belle prise. Il est devenu rapidement une coûteuse monnaie d'échange.
Oui, un général comme prisonnier, c'est effectivement une grande première dans toute l'histoire de cette guérilla. Vous aviez d'autres questions, Lamine?
Effectivement, je voulais savoir encore quelle peut être la conséquence de la suspension de ces négociations de paix à plus long terme.
Alors, Asbel Lopez.
Et quelle est la réaction de l'opinion publique colombienne face à la rupture de ces négociations?
D'abord, Asbel, les conséquences de la suspension des négociations.
Tout dépend de ce qui va arriver cette semaine. Il semble que la libération du général ainsi que du caporal Jorge Rodriguez et l'avocate Gloria Urrego est une question de jours, peut-être aujourd'hui ou demain. Les FARC ont donné leur accord pour les libérer ainsi que deux autres militaires qu'ils avaient séquestrés il y a 15 jours dans un autre endroit de la Colombie, au Meta. La guérilla va faire toute une mise en scène autour de leur libération, ce qui est de bonne guerre. Dans ces conditions, le processus de paix va reprendre. Le gouvernement pourra faire valoir la volonté de paix de la guérilla. En effet, les FARC auraient en quelque sorte sacrifié ce butin historique, une générale otage, en vue de la poursuite des pourparlers de paix. Il n'est pas exclu que cet événement, qui aurait pu balayer deux ans de discussion, puisse renforcer le processus de paix. Dans le cas contraire, si leur libération prend trop de temps, si les FARC mettent de nouvelles conditions, là, c'est le scénario catastrophe. Ce serait très probablement la rupture définitive du processus.
Et comment l'opinion publique réagit-elle à la suspension des négociations? Est-ce que le président Santos est soutenu dans cette initiative?
Cela dépend, Juan, si vous êtes pour ou contre le processus de paix. Ceux qui sont pour ont tendance à dédramatiser la situation, à minimiser le fait qu'un général soit tombé dans les mains des FARC. Ils soulignent que le processus a déjà abouti à des accords sur 3 des 6 points de l'agenda. Réforme rurale, la participation des CSRVL à la politique et la lutte anti-drogue.
Et ceux qui sont contre, en quelques mots?
Ils trouvent inadmissible, voire scandaleux, que le gouvernement se montre aussi bienveillant envers les FARC après ces événements. Ils rappellent aussi l'assassinat, il y a 2 semaines, des 2 indigènes dans le département de Cauca, parce qu'ils avaient osé arracher la photo d'un chef des FARC. L'ex-président Uribe, farouche opposant au dialogue, a réitéré que négocier avec les FARC était une erreur. Le président Santos a évoqué l'impact négatif de la capture du général et ses accompagnateurs en affirmant que la paix ne se construit pas en redoublant les actions violentes et en sapant la confiance. Un point positif quand même, Juan, leur libération peut aider à rétablir la confiance et pourquoi pas relancer le processus de paix. On verra ça bientôt.
On verra ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Asbel Lopez, de la rédaction Amérique latine d'RFI. Lamine, bonne journée en Gambie. Merci d'écouter RFI sur place. 9h17 à Paris. D'autres questions? Pierre Firsion du service politique nous rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Des questions concernant l'affaire Jouyet. Nous allons à Cancan, c'est en Guinée. Bonjour Madi Binet.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe RFI. Bienvenue à Cancan, Nabaya.
Eh bien, merci de nous accueillir sur place. On vous écoute.
Après une relative accalmée sur le plan politique, l'affaire Silonzière rentre vendredi dans une phase judiciaire. J'aimerais savoir, Juan Gomez, quelles sont les retombées de cette affaire entre Silon et Zière de la droite comme la gauche? C'est ma première question. Deuxième question, qui des deux hommes risque plus dans cette affaire?
Alors, Pierre Fission, qui des deux hommes risque le plus dans cette affaire? On rappelle d'abord que l'ex-premier ministre François Fillon est accusé d'avoir demandé à Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, lors d'un déjeuner, de faire pression pour accélérer les poursuites judiciaires contre Nicolas Sarkozy. François Fillon, lui, dément ces informations. Il accuse même Jean-Pierre Jouyet d'être un menteur. Comment la classe politique à droite et à gauche réagit?
Eh bien, on l'a vu la semaine dernière, la stratégie de la droite dans cette affaire, c'était de réclamer la tête de Jean-Pierre Jouyet, une UMP rassemblée, c'est assez rare pour être souligné. Le secrétaire général de l'Élysée était revenu sur ses propos il y a 10 jours. Pour l'UMP, il a donc menti, conséquence logique, il doit quitter l'Élysée. Mais dans l'entourage de François Hollande, on ne l'entend pas de cette oreille. Hors de question de céder à la pression de la droite, le président ne veut surtout pas se séparer de son bras droit, d'autant que Jean-Pierre Jouyet est un ami de longue date du chef de l'État. François Hollande a donc laissé passer l'orage politique et médiatique. Résultat, les demandes de démission se font aujourd'hui beaucoup moins insistantes. Il semble, on pourrait dire, que l'orage soit passé.
Ouais, mais paradoxalement, Pierre, ce qui est intéressant, c'est que cette affaire a quand même permis à la droite de se rassembler.
Oui, c'est là une évolution assez inattendue. Plutôt que de s'en prendre à François Fillon, les proches de Nicolas Sarkozy ont préféré attaquer, on pourrait dire, bille en tête Jean-Pierre Jouyet, et par là même François Hollande. Cette affaire est une bouffée d'air inespérée pour Nicolas Sarkozy, alors que sa campagne pour la présidence de l'UMP patine. Colombien. D'une part, elle lui a permis d'accréditer la thèse du complot contre lui, hein. Vous savez, ce complot qui serait organisé depuis l'Élysée par un soi-disant cabinet noir. D'autre part, en épargnant publiquement François Fillon, eh bien, Nicolas Sarkozy a voulu donner l'image, l'impression qu'il avait réellement changé, qu'il était au-dessus de ses guéguerres politiciennes et qu'il était aujourd'hui au sein de l'UMP le plus à même de rassembler son camp.
Ouais, en tout cas, malgré les déclarations de façade, les sarkozystes sont convaincus que François Fillon a demandé effectivement à Jean-Pierre Jouyet de taper sur Nicolas Sarkozy.
Oui, pour nombre d'entre eux, cela ne fait aucun doute. Et le dernier rebondissement ne devrait qu'alimenter un peu plus leurs soupçons. Mardi, l'hebdomadaire L'Obs révélait qu'Antoine Gosset-Grainville, le troisième homme de ce déjeuner, avait récemment appelé Nicolas Sarkozy pour lui dire qu'il n'avait pas assisté à la totalité du déjeuner et que s'il avait rapidement pris la défense de François Fillon, il ne l'avait fait que par amitié pour l'ancien Premier ministre, un revirement qui ne devrait pas arranger les affaires de ce dernier.
Alors justement, Maddy Binet nous demandait qui des deux hommes risquait le plus dans cette affaire. Pour vous, c'est l'ancien Premier ministre qui a le plus à perdre?
Oui, le député de Paris, hein, qui rêve, on le rappelle, de conquérir l'Élysée en 2017, joue très gros. S'il était reconnu coupable d'avoir tenté, avec l'aide de la gauche, de déstabiliser un membre de son parti, il serait alors perçu comme un traître. Il n'aurait plus alors qu'à faire une croix définitive, hein, sur ses ambitions présidentielles, d'autant que François Fillon traverse déjà une passe difficile. Il est en chute libre dans les sondages, en cause d'abord sa lutte contre Jean-François Copé en 2012 pour la présidence de l'UMP, un combat dont il est ressorti très abîmé. En cause également ses propos ambigus tenus l'an passé sur le Front National lors de la campagne des municipales. Bref, François Fillon joue là son avenir politique. Juan, il en a parfaitement conscience. C'est pour cela qu'il tente par tous les moyens de prouver sa bonne foi. Le problème pour lui, c'est que dans cette histoire, il n'est pas sûr que l'on connaisse un jour la vérité. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre.
Ouais, en tout cas, c'est une journée importante aujourd'hui sur le plan judiciaire.
Oui, parce que François Fillon demande d'avoir accès à l'enregistrement audio de la conversation, vous savez, entre Jean-Pierre Jouyet et les deux journalistes du Monde, et la justice doit rendre aujourd'hui sa décision.
Donc on en saura plus dans la journée.
Merci début d'après-midi.
Beaucoup Pierre Firsion, Maddy Binet, bonne journée à Cancan, 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Vos réactions dans 20 minutes maintenant sur la nomination hier d'un lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Zida, pour diriger le futur gouvernement au Burkina Faso. On vous attend évidemment avec impatience. D'autres questions standards. Narcisse, bonjour.
Bonjour, Juan. Merci de me recevoir.
Ben, merci à vous de nous écouter et de nous appeler. Vous avez des questions concernant la baisse des prix du pétrole.
Okay. À cet effet, on a constaté que le pétrole baisse depuis quelques temps. Mmh. Et j'ai trois questions relativement à cela. La première, qu'est-ce qui explique cette chute du prix du pétrole? La seconde, quelles sont les conséquences sur l'économie des pays exportateurs?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à ces deux premières questions avec Agnieszka Kumor du service éco d'RFI. Bonjour Agnieszka.
Bonjour Jean.
Alors, c'est vrai que les cours du pétrole n'en finissent pas de chuter. Je crois que le baril s'échange en ce moment à 75 $. C'est du jamais vu depuis 4 ans. Comment expliquer le phénomène? Pourquoi les prix du pétrole baissent?
Eh bien, cela fait 5 mois, en fait, maintenant que les cours du pétrole chutent. Depuis l'été, l'or noir a perdu un tiers de sa valeur. C'est le cumul de plusieurs facteurs qui est à l'origine de cette baisse brutale des prix. En particulier, un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre excédentaire a été augmentée par la poussée de la production, notamment du pétrole de schiste en Amérique du Nord. Et les pays de l'OPEP ont produit en septembre plus que l'année passée. Et puis, à la grande surprise de tous, la Libye et l'Irak ont repris leurs exportations malgré des crises politiques et sécuritaires graves. Cela avait fait d'abord monter les prix du pétrole. Mais quelques mois plus tard, l'Irak, en dépit de la guerre contre l'État islamique, continue à produire. Et en Libye, il y a une progression de la production et des exportations. Et quand on s'est aperçu que le système pétrolier de ces pays continuait à fonctionner, eh bien, cela a fait baisser les cours. Parallèlement à cette montée de la production, la demande mondiale de pétrole a, elle, reculé à cause du ralentissement de la croissance.
Ouais, donc les grands pays consommateurs de pétrole devraient voir leur facture énergétique s'alléger. En revanche, cette chute, j'imagine, signifie évidemment moins de recettes pour les pays producteurs.
Eh bien oui, faute de devises, le Venezuela a dû restreindre ses importations courantes pour honorer les remboursements de sa dette. Si la baisse continue, Caracas pourrait se retrouver en défaut de paiement. Le Nigeria a du mal à boucler son budget 2015. L'Algérie souhaite augmenter la production pour compenser ses pertes. Même son de cloche en Angola. tous les pays pétroliers sont finalement touchés, mais certains s'en sortent mieux que d'autres.
Pourquoi ?
C'est parce qu'ils ont constitué des réserves internes, par exemple de fonds souverains. Grâce à ces fonds, ces pays peuvent se permettre d'affronter des périodes plus ou moins longues de baisse des prix sans intervenir sur le marché. C'est le cas notamment des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont un matelas de réserves, produisent beaucoup et donc sont moins fragiles d'un point de vue financier que par exemple le Venezuela ou l'Équateur.
Merci beaucoup Agnieszka Kumor. Merci Narcisse, bonne journée. Vous nous appeliez d'Abidjan. Je sais que vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à écouter RFI sur place. On vous remercie évidemment de votre fidélité. Allez, nous traversons l'océan Atlantique. On part à Chicago, c'est bien ça? Xavier, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous avez
bonjour la radio mondiale.
Vous avez des questions sur le Sahara occidental?
Oui, j'ai une question sur le Sahara occidental. Effectivement, j'ai entendu sur les antennes de Radio France Internationale que le roi du Maroc déclarait que le Sahara occidental est marocain et restera marocain. À ça, j'ai deux petites questions à vous poser.
Allez-y.
La première question, c'est savoir quel est le statut actuel du Sahara occidental dans la communauté internationale.
Ah, effectivement. D'autant que le conflit du Sahara occidental est le plus vieux litige territorial sur le continent africain depuis maintenant plus de 40 ans. Bonjour, Khadija Mohsen Finan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous enseignez à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Effectivement, récemment, le roi du Maroc n'a pas mâché ses mots concernant le Sahara occidental. Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Quelle est la position de la communauté internationale sur ce dossier ?
Alors, pour la communauté internationale, c'est-à-dire pour les instances internationales, en réalité, le Sahara occidental est un territoire non autonome en cours de décolonisation. C'est-à-dire que l'ONU n'a pas encore statué sur ce territoire qui était une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975. Donc, effectivement, c'est ambigu parce que en 75, il y a eu une rencontre à Madrid, ce qu'on appelle l'accord de Madrid, et une déclaration de principe qui a été signée entre trois pays, qui sont le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie. Et en vertu de cette déclaration, en fait, l'Espagne a transféré une partie de ses responsabilités au Maroc en tant que puissance administrante, mais il n'y a pas eu de transfert de souveraineté. Et d'ailleurs, l'Espagne n'aurait pas pu transférer une souveraineté. Et donc, aujourd'hui, c'est un très gros problème parce que le Maroc a beaucoup investi politiquement et en argent et en développement dans cette région du Sahara occidental, qu'il considère comme sienne, mais il n'y a pas de reconnaissance de la communauté internationale. Et d'ailleurs, Hassan II disait toujours, il nous faut absolument déposer à la conservation foncière des Nations Unies notre titre de propriété du Sahara. Et ce titre n'est pas encore là.
Ouais, le Sahara occidental, contrôlé donc par le Maroc, revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario. Vous avez une autre question, Xavier ?
Oui, tout à fait. Quel est actuellement le statut du référendum ?
Ah, le fameux référendum d'autodétermination qui est réclamé depuis, je crois, une trentaine d'années par le Front Polisario. Où en sommes-nous ?
Oui, le référendum devait se tenir en 1992 et il devait donc être organisé par les Nations Unies parce que c'est les Nations Unies qui sont en charge du dénouement ou de la sortie de crise de ce conflit, mais il n'a jamais pu se tenir parce que les Nations Unies ne sont pas arrivées à établir des listes électorales. C'est-à-dire que les deux partis, les deux belligérants, à la fois Maroc et Front Polisario, ont triché sur l'établissement de ces listes. Donc aujourd'hui, il y a un très gros problème, d'autant plus que le Maroc, depuis la fin des années 90, un peu avant la mort de Hassan II, a opté de manière qu'ils appellent définitive, on ne sait jamais si ça sera définitif, pour une autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.
Large autonomie, effectivement. Merci beaucoup, Khadija Mohsen-Finan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous enseignez à l'Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Dans un instant, le journal et dans 10 minutes, notre débat. Un lieutenant-colonel à la tête du gouvernement au Burkina Faso. 339 693 693 70. À tout de suite.